J'enrage, lilloise et féministe. J'enrage, c'est moi et peut-être vous.
J'enrage est votre radio féministe lilloise, sur les ondes et dans vos cœurs, un dimanche par mois de 14 à 15 heures.
Sur RCV 99 FM.
J'enrage.
J'enrage, s'engage.
J'enrage, le courage en intraveineuse.
J'enrage, galaxie féministe, vous invite dans son no man's land.
J'enrage, la claque du dimanche après-midi.
Soyez là.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Salut à tous. Nous revoilà en ce dimanche 1er de mai. Avant de vous présenter le programme détaillé de cette heure passée ensemble, nous voudrions d'abord vous assurer de notre désolation pour cette émission. Nous allons décrypter et déconstruire ce qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous et qui continue de bercer des générations d'enfants. En fait, je m'entends pas, c'est pour ça que je me suis coupée la parole toute seule, mais c'est pas grave.
On t'entend par contre.
Je me suis perdue sur ma fiche. Ah oui, voilà, les films Disney. C'est pour ça qu'on est désolé, on va déconstruire les films Disney.
Ouais, on va parler Disney et princesse pendant une heure.
Accrochez-vous.
Soyez prêts.
Alors, dans la première partie de l'émission, on va aborder la question du racisme dans les dessins animés Disney. Ensuite, on aura une partie sur le sexisme, dans laquelle on va parler bien sûr de la place des femmes et des rôles féminins, mais aussi de l'homophobie et de la question du consentement. Nous parlerons également du classisme dans les Disney. Alors, classisme, pour rappel, c'est les stéréotypes et les discriminations liées aux différences de classe sociale. On va quand même terminer sur une petite note positive et alternative, les princesses rejetées. Je ne vous en dis pas plus, il faudra attendre à la fin de l'émission. Pour discuter de tous ces charmants points, il y a Julia.
Bonjour.
Anaïs. Mathilde et Clémy, une nouvelle voix à J'enrage, et moi-même, Anaëlle. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Clémy pour introduire la question du racisme.
Oui, alors, le racisme chez Disney. Déjà, avant de racisme, il y a déjà l'absence totale de personnages racisés jusque 1992 et Aladdin. Et l'argument qui a été longtemps avancé par Disney et puis par... que beaucoup de personnes encore peuvent nous dire pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de personnages racisés, c'est que c'est quand même surtout des légendes et des histoires traditionnelles européennes qui se passent dans une Europe médiévale, etc. Et que donc ce ne serait pas crédible d'avoir des personnages noirs ou arabes en Europe avant le Moyen-Âge, enfin au Moyen-Âge. Sauf que des souris qui fabriquent des robes, ça c'est crédible. Des femmes sorcières, dragons qui brûlent des châteaux, c'est crédible. Et des chandeliers et des théières qui chantent et qui dansent, c'est crédible aussi. Mais des noirs ou des arabes ou des asiatiques en Europe avant l'époque moderne et la colonisation, c'est pas possible. Alors, je parle d'une série qui s'appelle Once Upon a Time, qui est plutôt à destination d'un public adolescent, mais que je regarde, qui en est à la 5e saison actuellement, et qui a mis des personnages de fées et de princesses et de reines racisées, et c'est tout à fait, je veux dire, c'est pas moins crédible que quoi que ce soit d'autre qui se passe dans cette série. Il y a même la petite sirène qui est noire et réponse, c'est super fort que la personne qui a les cheveux très longs soit une personne noire. Et oui, donc la petite sirène, je veux dire, c'est une sirène, c'est un personnage mythologique qui n'existe pas, qui pourrait être violet ou bleu ou gris, mais qu'il soit noir ou arabe, c'est vraiment pas possible. Et puis quand enfin on met des personnages racisés dans le Disney, il faut qu'ils soient cantonnés à un certain espace géographique, à leur espace géographique. Donc d'abord Aladdin en 92, il faut que ce soit en Indo-Arabistan, on ne sait pas trop ce que c'est comme pays, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Mulan aussi en Chine, et puis la Louisiane pour la jeune fille à la princesse. Mais pas l'Afrique, parce que quand on fait quelque chose en Afrique, il faut forcément que ce soit des animaux. Hein, l'Afrique, c'est l'animalité, puis on ne va quand même pas mettre que des noirs à l'écran dans un Disney, ce serait complètement fou. Donc le premier Disney avec des personnages racisés en exclusivité, c'est Aladdin. Alors déjà, pour la petite histoire, la chanson d'introduction d'Aladdin a dû être réécrite parce qu'il y a eu trop de plaintes après les premiers essais Disney, parce qu'elle était trop raciste en fait. Elle décrivait trop de clichés sur ce pays mystérieux oriental. On parlait trop de culture barbare, de qu'on te tranche la gorge, etc. Wow. Donc on a dit on va y aller mollo quand même, puis c'est pour les enfants. Donc on va y aller moins fort sur la violence. Par contre, Disney n'a pas voulu changer quoi que ce soit d'autre des critiques qui avaient été apportées. Donc tout le reste du dessin animé sous-tend à dire... ce pays et cette région du monde est vraiment particulièrement cruel et injuste, et puis même les pauvres, ils s'aident même pas entre eux, il n'y a même pas de solidarité, c'est vraiment nul. Ensuite, il y a le syndrome Aladdin, c'est carrément devenu une expression pour décrire ce fait, c'est le fait que Aladdin soit le seul, enfin, les personnes gentilles soient les seules à être occidentalisées, et tous les autres, tous les méchants ont des traits très marqués, arabes, racisés, etc., surtout Jafar, plus que les autres. Alors le fait aussi que l'espace géographique soit indéfini, c'est quand même particulièrement... c'est pas rien. Par exemple, La Belle et la Bête, c'était quand même en France ou à peu près. On s'inspire quand même de régions d'Europe. On essaie d'être un peu cohérent à ce niveau-là, mais pas du tout pour Aladdin. Là, on mélange toutes les cultures différentes, tous les clichés qu'on peut sortir, on les sort. Notamment le cliché de la princesse arabe qui, forcément, n'est jamais sortie de chez elle parce qu'elle est retenue par son méchant papa. Non, d'ailleurs, il n'est pas méchant, il est gentil, mais par son papa dans le palais. Et en fait, on remarque que ça, c'est le cas de toutes les princesses racisées Disney. Donc Mulan, c'est pareil, mariage forcé. Jasmine aussi, bon, Jasmine vient de le dire. Pocahontas, c'est toutes les autres. Il y a quand même une grande histoire d'amour à la base de la notion de mariage. Alors que pour elles, le mariage, ça vient d'abord comme quelque chose qu'on leur impose. Et voilà. Bon, ensuite, La Princesse et la Grenouille, c'est vrai que c'était chouette. On avait un dessin animé, on avait notre princesse. Enfin, trop bien. Sauf que même là, c'est la Nouvelle-Orléans. Il faut que ce soit la Nouvelle-Orléans. Il faut que ce soit un endroit qui est déjà associé à la négritude, parce qu'on ne va quand même pas, encore une fois, mettre des Noirs en Europe ou dans quelque chose qui est uniquement occidental. Et puis, on le met donc dans la Nouvelle-Orléans de 1920, donc une époque hyper raciste et ségrégationniste. On dépeint un peu ça en arrière-plan, mais à aucun moment, on en parle dans l'histoire. C'est complètement anecdotique. Elle a des relations hyper cool avec ses patrons qui l'exploitent, concrètement, qui sont blindés de thunes et qui ne la payent rien du tout. Ils sont gentils, on est tous copains, mais quand même, c'était une époque difficile pour nous. Bon, le voodoo, ça ne peut pas non plus être juste de la magie, il faut que ce soit du voodoo. Si c'est noir et magique, c'est forcément voodoo. Et c'est le seul couple prince-princesse noir qu'on ait, mais c'est quand même la moitié du film, ils sont en grenouille. Bon, des noirs à l'écran, trop de représentations, tout ça. oui, donc avant quand même Pocahontas, Aladdin et Tiana, il y avait un tout petit peu de représentation en filigrane de personnages racisés. Par exemple, dans Peter Pan, il y a le personnage de Lily la tigresse et puis du chef indien. Alors déjà, on ne sait pas, il y a une tribu indienne qui est mentionnée, mais à aucun moment leur habit ou le folklore ne respecte ces traditions. C'est vraiment plein de clichés en fait sur les Amérindiens. On n'a pas du tout cherché à être vrai ou réel de quelque façon que ce soit. Et le chef indien raconte à un moment donné comment son peuple est devenu rouge. Il y a une très jolie petite histoire qui dit que c'est parce qu'un jour un indien s'est fait embrasser sur la joue, il a rougi et du coup ils sont rouges. Ce qui dit en gros, avant on était comme vous, on était normaux, on était blancs, la normalité, voilà, la blanchité. Et puis il s'est passé un truc et du coup notre couleur a dévié, elle a pris un autre chemin. Ce qui est quand même un petit peu dégueulasse, voilà. Et puis finir. Le Livre de la Jungle, c'est donc un des premiers à se passer sur un autre continent que le continent européen. Il y a le personnage de Mowgli, mais qui est quand même très occidentalisé, même si il vit dans la jungle. Et puis, surtout, il y a ce passage assez consternant, très entraînant par ailleurs, et de la chanson des singes, Je voudrais être comme vous, etc. Qui, bon, déjà, c'est du jazz dans Disney, ce qui se faisait pas tellement, et bon, c'est de la musique de nègre. J'ai le droit de le dire, je précise, je suis pas blanche. Florence Rossignol. de noir, de nègre. Et bon, voilà, le parallèle, même si on a fait chanter un chanteur blanc parce qu'on trouvait que faire chanter Louis Armstrong, donc faire chanter un noir pour des singes, c'était un peu abusé, ça reste quand même très, très, très connoté. Il n'y a pas besoin de chercher très loin pour faire le parallèle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment j'ai fait une super transition vers le morceau musical.
Complètement.
Ouais, c'est trop la classe. Mais on a encore un petit peu de temps pour discuter. T'as speedé. On n'est pas en retard pour une fois. Dans Genrage. On va peut-être l'être un petit peu après. Mais ça.
L'émission n'est pas finie.
Non, elle vient juste de commencer. Et maintenant, je m'entends.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les personnages gentils étaient occidentalisés, les personnages méchants. Ça se retrouve pas mal dans Mulan aussi, avec Attila, donc le chef des Huns. Ouais. On reste sur la transition, hein, comme ça. Mais de tout à l'heure. Attila, ouais, qui est quand même fort. Qui est fort stéréotypé,
Brun,
et puis très stéréotypé asiatique, les yeux très tirés, etc. Alors que les guerriers de l'empereur, et même l'empereur en lui-même, hein, il a un physique assez occidentalisé.
En comparaison, ouais.
En comparaison, ouais.
Dans le Roi Lion aussi, Scar est très noir, très foncé par rapport à tous les autres personnages.
Ouais,
donc les méchants, ils sont plus noirs, quoi. C'est sympa. C'est aussi un super message à faire passer aux enfants.
Il y a toute une métaphore aussi dans Aladdin il est pur comme un diamant, et puis contrairement à Jafar qui est dark, bon, en anglais c'est dark, mais c'est traduit en français par noir, il est noir, ses vêtements sont noirs. Oui, on a compris, doucement.
C'est ça, non. Ça, le noir comme symbole du diable, de la méchanceté. Pouf, ouais, on n'est pas sorti. Hein.
Mm-hmm. Ouais, effectivement. Bon, on va quand même rebondir sur ta transition et nous allons, parce que émission Disney oblige, chanson de Disney dans les pauses musicales.
Voilà, mais évidemment les plus éloquentes, hein, quand même.
Ah bah oui.
Que vous compreniez qu'on appuie notre propos par des témoignages musicaux.
En plus, je l'ai pris en français pour une meilleure compréhension des paroles. Donc, nous allons tout de suite, en cette première pause musicale, vous passer « Je veux être un homme comme vous » du livre de la jungle et qui est interprété en français par José Bartel.
Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut, et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, choubidou, pourrais-je le croire, être parfois bien plus humain que vous.
Je voudrais marcher
marcher comme vous, et parler comme vous, tu fais comme vous, tu fous. Oui, bien, bien, je l'avoue, je veux de quelqu'un comme moi. Scooby-Dooby-Dooby, c'est vrai, je crois, de devenir comme vous. Ce qu'on s'amuse ici, c'est vrai, je crois, de devenir comme moi. Encore une fois, c'est vrai, je crois, de devenir comme moi.
Et vous êtes de retour sur RCV pour l'émission J'enrage. Et on est toujours le 1er mai, la fête du travail. Et on a, je pense bien aux personnes qui viennent de finir la manif de ce matin à Lille, auquel j'aurais voulu participer. Mais j'ai, à la place, j'ai travaillé sur l'émission. Hein, voilà. Du coup, donc notre deuxième angle d'analyse, plus général, on va dire, enfin général, non, mais notre deuxième angle d'analyse, c'est plutôt le sexisme, du coup. Donc, on va aborder trois notions principales, et du coup, ça va être plus un dialogue sur les films qui nous ont marqués, pourquoi ça nous a marqués. Donc, Annaëlle les a présentés tout à l'heure. Il y avait donc le rapport au consentement. Comment le consentement n'est pas abordé dans la plupart des films Disney dans les relations hommes-femmes et, ou même autres. Dans la place des femmes, c'est-à-dire on est quand même sur des films qui sont là pour la plupart du temps des films de princesses. Mais les princesses ont pas l'air d'avoir beaucoup d'autres hobbies que enlever des pétales de fleurs les unes après les autres et chanter avec les oiseaux. Du coup, pareil, quelque chose qu'on va questionner un peu longuement. Et puis aussi le rapport à l'homophobie, qui sont donc plus dans les thèmes employés, dans les manières dont les, par exemple, pour donner, ouais, enfin, on donnera quelques exemples, mais voilà, il y a dans les manières dont les personnages sont représentés, soit de manière plus virile ou moins virile, et qu'est-ce que ça sous-entend dans les représentations, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de parler d'une de ces trois thématiques qui ça fait rebondir?
Bah, peut-être pour rebondir sur l'homophobie et du coup pour reprendre ce avec quoi on a terminé la question du racisme, pour parler uniquement par exemple de Jafar et Scar, les représentations des personnages, outre le fait qu'ils soient plus foncés parce que ce sont des méchants, ils sont aussi efféminés, entre guillemets. Parce que par exemple Scar, il est déjà, il paraît plus mince et surtout au niveau du bassin que Mustapha ou que Simba une fois qu'il est roi dans les rois lions suivants. Et puis il est aussi il slime les ongles par exemple, il a des manières qui peuvent être un peu efféminées. Et Jafar pareil, il est très longiligne, grand, très mince et avec des mimiques un peu efféminées aussi. Alors c'est difficile de faut les voir, enfin parce qu'on peut pas vous les mimer, mais voilà, c'est des mimiques un peu efféminées et du coup qui les méchants masculins dans ce genre de film, qui en plus sont des films qui se passent pas en Europe, avec des méchants qui sont plus noirs que les autres. Enfin voilà, ça fait un peu le cumul quoi.
C'est ça. Et pour ces deux personnages aussi, les deux sont des personnages hypocrites qui jouent un double jeu. Et j'ai l'impression que c'est quand même complètement lié. Ils sont foncés de teint, ils sont efféminés. On n'est pas vraiment sûr de leur sexualité. C'est un ensemble assez typique en fait, de très louche. On ne sait pas ce que c'est quoi.
Ouais. Voilà. ouais. Et puis sur le sexisme aussi ou le rôle des femmes en dehors des gentilles princesses. Même les méchantes dans les Disney, elles sont souvent méchantes parce que elles sont jalouses des princesses ou des personnages féminins principaux des films et elles veulent leur beauté, la place dans le cœur, on ne sait pas quel prince, etc. Alors que les méchants, d'une manière générale, ils veulent le pouvoir. Alors, en discutant avec certains, dans La Petite Sirène, c'est un peu plus mitigé.
Ouais.
C'est un peu plus mitigé. Elle veut le pouvoir aussi, et la voix d'Ariel, etc. Mais majoritairement, les méchantes, elles sont quand même jalouses. On prend réponse. La méchante, elle est méchante parce qu'elle veut rester jeune, quoi. Enfin, c'est hyper. C'est vraiment ça.
C'est hyper connoté, on va dire, préoccupation féminine, stéréotypée, quoi.
On aurait pu même rajouter l'agisme dans notre rubrique. On n'a pas trop le temps. Mais...
Bah, on pourrait aussi rajouter la grossophobie aussi.
Hein, ouais, carrément.
Parce que du coup, Médisa, elle est méchante et elle est grosse.
Ouais.
Mais par contre, la petite sirène, elle est mince. On ne sait pas comment elle respire.
On n'a pas bien compris.
Comme Jasmine, il y avait pas mal de choses sur Jasmine qui avait la taille plus fine que son cou.
Déjà, elle est over-sexualisée par rapport aux princesses précédentes. C'est la seule dont on voit la poitrine et qui a un décolleté pareil. Il y a eu Pocahontas aussi, en mode hyper-sexualisé. Et puis oui, effectivement, c'est quoi cette taille qui est moins large que tes mains et que ton cou? C'est pas possible, ça n'existe pas.
Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Barbie finalement. Ouais, c'est un peu dans la même logique d'idéaliser le corps féminin.
Pour faire des petites filles traumatisées toute leur vie.
C'est ça. C'est ça.
Ou à la course à la ressemblance avec les princesses. Mmh. Un petit peu compliqué.
Voilà, c'est ça. Alors après, il y avait une des linguistes. Alors j'avais quand même envie d'en parler. Donc les linguistes Carmen Foote et Karen Eisenhower qui ont en fait travaillé sur le projet d'analyser tous les dialogues des princesses, des films Disney de princesses. Et en fait, ils sont rendus compte que c'était quand même un espèce de modèle assez récurrent pour pas mal de jeunes filles qui regardaient, de petites filles qui regardaient ces films. Et du coup, ils se sont demandé qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça apprenait ces films dans les rôles de genre, quoi, dans les rôles, les questions, on va dire, homme-femme. Et donc, un des principaux moteurs, on va dire. Enfin, une des principales, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, finalement, parce que, bon, on a quand même recherché un petit peu. Les trois quarts des films sont de toute manière réalisés par des hommes. Il y en a peut-être un qui est réalisé par un homme et une femme, donc, qui est donc la reine des Neiges, donc par Jennifer Lee et Chris Rock. À part ça, j'ai pas fait toute la liste, mais j'en ai pas trop. Enfin, si, j'ai à peu près regardé tous les Disney, on va dire, longs métrages connus et classiques depuis le début. J'ai trouvé que celui-là, peut-être un deuxième, mais pas sûr. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est le nombre de mots, donc dans les dialogues, la répartition des dialogues. Le film le plus... alors, c'est où dans ce petit truc que j'avais là qui était magnifique? Alors, celui qui a la plus grande part de rôle de dialogue masculin, c'est Le Livre de la Jungle. Donc, on a 98% de dialogue plutôt masculin. Et alors, ensuite, on arrive à difficilement, les films qui ont plus de 60% de dialogue, alors on en a quand même 4.
Waouh!
Donc, The Sleeping Beauty, donc La Belle au Bois dormant, Maleficent, donc c'est Maléfice, Alice, au pays des merveilles, et Inside Out, donc Vice Versa. Voilà. Pour donner un petit exemple. Ah, La Reine des Neiges est quand même en bonne position, même si elle n'est pas donc à plus de 60% de dialogue, on en a plutôt 43%, on va dire, de dialogue plutôt. Dit par des femmes et pour 57 dit par des hommes.
C'est quand même assez impressionnant sur La Reine des Neiges. C'est quand même deux filles les personnages principaux et elles ont moins de la moitié du temps de parole durant tout le film, quoi.
Voilà.
C'est quand même. Ou si on reprend La Belle au Bois dormant aussi, la majorité du film c'est Aurore avec les trois fées. Alors je sais pas. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est pareil. Elles font pas partie des quatre films qui ont plus de 60%, alors que la majorité du film c'est quand même des femmes qui parlent.
Ouais, La Belle au Bois dormant. Bah non, si, La Belle au Bois dormant. Tu parles de La Belle au Bois dormant?
Ouais.
Si, c'est sûr.
Ah, si, quand même.
Si, quand même.
Ah ouais, quand même.
64%. Tu avais raison.
4 personnages, 64%.
Tu avais raison, Anaëlle.
Ça va. On s'en sort bien.
Ouais, ça aurait pu être plus sûr. Donc voilà.
Mais pour rester sur La Belle au Bois dormant, pareil, on est trop forte en transition aujourd'hui, sur la question du consentement, par exemple, en ne citant que La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige, par exemple, à chaque fois qu'elles se font embrasser par le prince charmant, elles sont inconscientes. oui. En fait.
Et la question se pose jamais, à aucun moment, ni avant, ni après. On parle de, et peut-être elle même pas, peut-être elle aurait pas du tout envie si elle était, jamais, c'est même pas ça une petite pas allusion évoquer. Comme ça. C'est...
Même les sept nains qui sont autour du cercueil en verre de Blanche-Neige ne lui disent pas, peut-être qu'éventuellement il y a moyen de faire autrement. Non, 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 c'est la seule solution, quoi.
On le notait avec la petite sirène aussi, qui du coup peut pas parler, et t'as le crabe et tous les poissons qui chantent, embrasse-la, embrasse-la, demande-lui. D'abord. Après on verra et du coup l'histoire de la Belle et la Bête aussi, où c'est quand même elle est pas là de son plein gré la base, même si bon il se trouve que syndrome de Stockholm, elle tombe amoureuse et tout, mais ça commence quand même pas par une histoire de consentement tout ça.
Bah non, elle est séquestrée quand même,
voilà.
Ouais, parce que son père est malade. Et d'ailleurs, dans la Belle et la Bête, le personnage, comment il s'appelle cet horrible personnage, voilà. C'est vraiment. Mais alors, ils ont fait un personnage macho par excellence des sexistes pour montrer qu'ils le sont pas. Mais il est quand même absolument horrible.
C'est le garçon du village qui lui court après.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, voilà.
Et c'est même. Alors, évidemment, elle va être avec la bête. Mais c'est même. Enfin, c'est même pas questionné en fait. Son sexisme, il est presque. Alors.
Bah, il est hyper trash.
Ouais. Bah, il est hyper trash. Et puis, il y a juste avec Belle que ça marche pas, parce que toutes les meufs du village, elles lui courent après quand même. C'est un truc de fou. Il a un super... c'est le Don Juan de service, quoi.
Mais on dit beaucoup que Belle est différente des autres. Elle lit des livres. Elle n'est pas comme les autres filles. Elle est cultivée, elle rêve, alors que les autres ne pensent qu'à se faire belle et sont amoureuses de Gaston. Donc c'est pour ça qu'elle résiste au charme de l'irrésistible. Donc,
Bah ouais.
Lisez des livres, quoi, voilà.
Ça se retrouve... ça se retrouve un peu avec Cendrillon, moi, je trouve, et le fait qu'elle soit... qu'elle serve de servante à la méchante belle-mère, elle a un certain recul comme ça, ou un certain esprit critique sur sa belle-mère, et elle garde la gentillesse quand même envers ses belles-sœurs, etc., qu'ont pas ses belles-sœurs, qui sont hyper superficielles et qui sont que dans le fait de s'apprêter d'aller à des balles pour rencontrer le prince, et qui sont prêtes à mentir avec la pantoufle de verre. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça, enfin, c'est les personnages... qui sont principaux, mais qui sont différents, en tout cas traités différemment, qui quand même, elles en ont un petit peu dans la caboche, quoi.
Et Cendrillon, elle est belle, mais elle ne fait pas exprès, justement, contrairement aux sœurs qui font... En plus, elles sont moches, mais elles font beaucoup d'efforts pour être belles, alors que Cendrillon, bon, il se trouve qu'elle est jolie, mais c'est parce que ça lui est arrivé.
Ouais, c'est comme cette histoire fantastique de la... Moi, ça m'avait marqué, d'avoir le coup de la pantoufle en verre, là, quand les sœurs, elles essaient les pantoufles en verre. Elles ont des pieds gigantesques, elles ont des pieds... Alors, genre, en fait, c'est espèce... encore une fois, on est dans une espèce de normativité du corps. Et le corps de Cendrillon et le petit pied mignon et blanc de Cendrillon.
Tu peux pas trouver un prince charmant si tu choses du 42. Hein.
C'est incroyable. Ah bah, j'avais pas pensé à ça. C'est marrant.
Et tu peux pas juste avoir des petits pieds. Tu dois avoir le plus petit du royaume. Attention.
Bah ouais.
Ouais, c'est tellement réaliste. En plus, quand tu passes ta journée à faire le ménage, tu as le temps d'avoir des petits pieds blancs et absolument fantastiques.
Aussi, et des mains si peu calleuses, mais quand même. Elle a des mains absolument splendides, nickel. On la voit jamais se faire les ongles et les mains. Alors que les sœurs, elles passent leur temps à se faire les mains et tout. Ça ne marche quand même pas, c'est quand même injuste. Hein. Si t'es moche, tu resteras moche toute ta vie et tu trouveras pas l'amour. Voilà.
Et t'es sûrement méchante.
Voilà. En plus.
T'es sûrement méchante, ouais.
Et jalouse de la beauté des autres parce que, évidemment, tout passe par la beauté physique. Oh. Voilà. Donc voilà.
Pour les femmes.
Évidemment.
Ouais, bah. Non, tout passe par les hommes. Pour les hommes, l'important, c'est d'être arrogant, finalement. Hein, et musclé, et de bien oser dans les représentations. Il faut quand même. Pareil, ils sont beaux, mais ils ne le font pas exprès. Hein. Jamais ils se recoiffent. Quand ils sont très nerveux, ils se recoiffent des fois. Ouais, quand
puis ils sont imberbes. Personne n'a de barbe, mais personne ne se rase jamais. Il n'y a que Jafar qui a une barbe, si je ne m'abuse. Et Scar aussi. Scar a une barbe aussi.
Les vieux, ils ont des...
Oui, les vieux, évidemment.
Comme
barbe blanche.
Le père de Jasmine.
Parce qu'ils n'ont plus besoin d'être séduisants.
Ils sont sages, tout ça.
Des poils.
C'est au niveau représentation. Bah, on parle beaucoup de représentation féminine, mais au niveau de la représentation masculine, c'est quand même hardcore aussi. Enfin, je veux dire, si t'es petit, si t'es pas très musclé, si t'es pas très courageux et que t'as un peu peur de la sorcière quand tu regardes un film, t'es vraiment mal barré dans la vie. Quoi.
Bah, t'es l'élément comique.
Ouais, puis tu te trouveras pas de princesse, hein. C'est mort. C'est mort pour toi. Ou tu te tapes les sœurs de Cendrillon, qui sont méchantes, et bah, je veux dire, peut-être qu'elles s'adouciront en trouvant l'amour, tu vois, peut-être, mais... et encore, que... parce qu'elles, elles veulent le prince, donc c'est même pas gagné, quoi.
Mm-hmm. C'est triste. Cendrillon 2, je pense que Javotte trouve l'amour.
Oui, elle devient gentille, Javotte, je l'ai vu
elle
aussi.
Elle devient gentille et jolie.
Javotte.
Elle trouve l'amour. Ouais. Ouais, elle tombe amoureuse.
La rouquine.
Je sais pas si
c'est dans ce, dans ce sens-là, elle est d'abord gentille, ensuite elle trouve l'amour, en fait, ou elle trouve l'amour et après.
C'est Cendrillon qui l'a reconvertie en gentillesse.
C'est pas vrai.
Il y a des fleurs et tout, vas-y, cueille des fleurs et tout.
En fait, du coup, elle ouvre son cœur, quoi.
Elle ouvre son cœur et là, elle va trouver un beau petit boulanger tout gentil, tout mignon. Bon, pas trop dans les bons. Pas trop dans les bons critères physiques, mais ça va, il est quand même gentil.
Et puis il est artisan, quoi. Il est pas prince.
Non, mais de toute manière, elle est pas belle, elle peut pas se taper un beau gosse.
C'est pas vraiment un prince, c'est sûr.
À sa hauteur.
Ah oui, donc.
Ouais, c'est à sa hauteur, voilà, c'est ça.
C'est ça,
ouais. C'est horrible. C'est vraiment.
Un peu cynique.
N'empêche qu'elle devient gentille avant, quand même. Ils n'ont pas poussé le bouchon.
Oui, c'est la deuxième.
Oui, qui a un nom.
Adélaïde, ouais.
Non, 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 elle s'appelle pas comme ça. Comment elle s'appelle? Ça finit en I. Enfin, bref.
C'est pas Eudoxie?
Je sais plus.
D'accord? Les sœurs de Cendrillon.
Bon, ah non, je veux jamais. Je suis désolée, ça fait pas des films que j'ai revus
Anastasie.
Récemment.
Anastasie, voilà.
Ah, c'est pas Anastasie. Mal Anastasie comme nom en plus. Ouais.
Non, mais Javotte, elle reste méchante. Elle
D'ailleurs, en parlant. En parlant d'Anastasia, d'ailleurs, alors on ne sait pas si c'est un Disney ou pas un Disney. Hein, c'est pas un Disney. C'est pour ça qu'elle a autant de tempérament, Anastasia.
Peut-être.
Parce que quand même, bon, elle a été élevée dans un orphelinat, donc ça forge un caractère, hein. On va pas se mentir. Mais quand même, elle a du caractère. Et en plus, elle tient de sa grand-mère, qui a un sacré caractère aussi. Ouais, féminin, bon, y a plein de critiques aussi, mais...
Moi, ce qui m'a rendue triste, c'est qu'elle est tombée amoureuse quand même à la fin.
Ouais, de Dimitri. Ouais, mais il est pas prince.
Moi, j'ai trouvé ça un peu triste. J'étais là, mais pourquoi, en fait, elle se débrouille très bien sans lui. Bon, bref.
Mais parce que forcément, quand tu regardes un Disney, à un moment, à la fin, t'attends qu'il tombe amoureux. Un dessin. Bah ouais, non, mais
sinon, c'est pas une fin heureuse, c'est tout.
C'est ça. Dans Vice Versa, elle trouve pas, mais c'est une adolescente.
Elle a un petit copain, elle a pas de petit copain.
Non, elle a pas de petit copain.
Elle en a un dont elle est amoureuse avant de déménager, je crois.
Je sais pas. Il y en a quand même un qui est créé par ses humeurs dans son cerveau là, pour essayer de la rendre heureuse.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ça ne marche pas. Il est quand même très nul, ce garçon créé. Et en fait, il ne marche pas du tout.
Alors que le hockey sur glace, c'est quand même le truc qui la rend la plus heureuse dans la vie.
C'est quand même pas mal, hein. Vice Versa est un bon dessin animé.
Non, mais je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir malgré tout, parce que quand on regarde les petits graphiques, les derniers films où il y a le plus de temps de parole pour les femmes, c'est quand même les plus récents.
Mmh. Bah, d'ailleurs, ouais, Vice Versa, c'est 64% hein, de dialogues dits par des femmes.
Bah, c'est quand même un petit peu de positif.
Ouais. Il y a de l'espoir. Voilà. Bon, alors évidemment, après, on est quand même dans une hétéronormativité extrêmement forte. Hein.
Faut pas abuser non plus, Julia. Oh là là.
Non, parce que c'est vrai que... Enfin, je veux dire, on est des... Moi, je pense que je suis une personne minoritaire en tant que bisexuelle, hein, c'est évident. J'oublie toujours, mais...
Et si quand même sur les mariages arrangés, alors moi ça me fait beaucoup rire aussi parce que c'est mal traduit. Rebelle s'oppose à l'ordre établi. Elle finit par se marier quand même. Enfin, elle sera quand même obligée de se marier, mais elle peut choisir parce que les quatre qu'il y a devant elle, ça ne lui convient pas et elle veut pas qu'on lui arrange son mariage. Et donc elle, en plus, elle fait quand même. Il faut qu'elle se mesure aux quatre. Petits bons hommes qui sont là en tirant à l'arc et en faisant des trucs un peu cool, quoi. Mais quand même, faut pas abuser, quand même devoir se marier, quoi. Et puis la traduction française, moi, rebelle, c'est un peu dommage quand même. Parce que c'est pas très rebelle, en fait.
Courageuse, rebelle, c'est pas
c'est pas pareil.
Chose,
hein,
bah non. Elle est plus courageuse que rebelle, en fait, parce qu'elle se rebelle pas vraiment. Elle s'oppose à sa mère et à l'ordre établi, etc. Et elle fait preuve de courage, mais elle en voit pas tout où elle sait, quoi.
Je veux bien rester dans l'enclos, mais dans l'enclos, je fais ce que je veux.
Voilà, c'est ça. J'ai conscience des quatre murs autour de moi. Je veux pouvoir les décorer comme je veux pour m'y sentir chez moi. Ah là là. Bon, alors, pour... Si, on refait une petite pause ou on...
Eh ben, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ces questions-là? On est formidable au niveau timing.
Oh là 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 là.
Je pense qu'on peut y aller.
On peut faire
cette introduction. L'introduction musicale qui a déjà été faite par Anaël il y a 10 minutes.
Mais j'ai pas dit que ça allait être l'introduction musicale.
Alors on n'a pas trop, du coup, le mot phobie pour ajouter une petite critique. Enfin, on pourra en parler après la chanson. On avait quand même pas mal aimé Mulan. Enfin, moi, je sais que Mulan est un des premiers Disney qui m'a vraiment plu au point que je le regarde plus d'une dizaine de fois. Bon. Parce que il y avait cette dimension de travestissement aussi, et du fait qu'elle se comportait comme un homme et qu'elle n'était pas repérée rapidement finalement. C'est assez tard dans le film qu'on découvre qu'elle n'est pas un homme. Et du coup, j'avais vachement aimé ça, le fait qu'elle, en fait, que c'est quand même un acte courageux de se barrer de chez soi et de se déguiser en homme pour faire partie d'une armée. Moi, je trouve, personnellement, je ne sais pas si j'aurais envie de porter les armes déjà. Alors, voilà. Et du coup, on avait quand même remarqué que comme les personnages, les amis de Mulan, c'est encore une fois des hommes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de virilité. Enfin, je ne sais pas si c'est un stéréotype, là, aussi, on pourrait dire ça.
Bah ouais, qui ne correspondent pas à la masculinité hégémonique.
Merci.
Je t'en prie.
Et donc, du coup, on a voulu quand même vous passer la chanson « Comme un homme » de Mulan, qui en gros, nous décrit dans toutes les coutures que si on n'est pas un homme, on est une femmelette. Et donc, encore une fois, sexisme, homophobie,
virilisme.
Et quand même, nous l'avons oublié, mais quand on l'a réécouté, ça nous a fait tilt. La version française est interprétée par Patrick Fiori.
Il y avait son petit succès à l'époque. Je pense que c'était au moment des 10
Première nouvelle.
C'était au moment des 10 commandements, je crois, non? Attends, non, c'était pas les 10 commandements de Notre-Dame. Ils étaient le beau gosse de Notre-Dame.
Bah ouais. Vous avez raté la tête de Mathilde qui a fait une bouche en haut comme un smiley. Genre, oh mon Dieu.
Patrick. Mais oui, Patrick, quand même. Quoi. Bon, voilà.
Bon, allez,
amusez-vous bien.
On se retrouve dans 3 minutes.
Suivez bien mon chemin, vous
Absolument. Alors, c'est, vous vous rendez bien compte que si on a fait une émission sur Disney, c'est quand même qu'on s'est tous regardés. Et si on s'est tous regardés, c'est parce que quelque part, malgré toutes ces critiques horribles qu'on fait en tant que féministe, eh ben, ça nous fait kiffer un peu quelque part. Et on a un peu la honte. Et donc, du coup, on était en train de chanter dans le studio.
Mais ça nous a même forgé notre caractère à certains niveaux quand même.
Oui, oui, voilà. Perception, tout ça. Ouais, ouais. Ouais.
Voilà, toutes ces choses, tous ces mythes du prince charmant qu'il nous a fallu déconstruire dans notre préadolescence. Mm-hmm. Post-adolescence, plutôt. Post-adolescence. Ouais,
post-adolescence. Qu'on est toujours en train de déconstruire, voilà. Peut-être aussi.
Ouais, peut-être. Peut-être, effectivement, qu'on est encore là-dedans. D'ailleurs, juste pour préciser, ce que tu disais, Clémy, par rapport à Aladdin, est aussi vrai pour Mulan. Nous avons donc un imaginaire. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est censé se passer en Chine. Hein, donc, voilà, la muraille de Chine, machin, machin. Mais en fait, ça ne correspond à rien en termes de réalité. C'est encore une fois un imaginaire occidental avec tous les stéréotypes liés à la culture asiatique qui sont gentiment balancés pendant 2 heures de film. Mmh. Voilà. À tous les niveaux, hein, quand même. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc on va parler un petit peu d'un quelque chose quand même qui nous a semblé assez pertinent aussi. Bon, tout est pertinent hein, finalement dans les Disney à critiquer.
Merci, Julie, de coloriser notre émission.
C'est ça, on a hésité, on s'est dit quand même ça allait faire un peu too much. Peut-être qu'on va élargir après sur la pop culture, pour faire une émission critique sur la pop culture. Mais du coup, on voulait élargir plus par rapport, faire parler du classisme en fait, donc des stéréotypes et des rapports entre les différentes classes sociales dans les Disney, parce que finalement, c'est quand même un ressort, en tout cas, scénarios, quoi. Donc, quand même pas mal de films. Là, il y en avait 3 qui me sont venus spontanément. C'était La Belle et le Clochard, hein, donc mm-hmm. comme ce titre l'indique clairement. Il y a La Belle qui... Oui, c'est ça, c'est très subtil comme titre.
Ah, d'ailleurs, je ne l'avais jamais vu et je l'ai regardé pour préparer l'émission, évidemment.
Par souci vendredi professionnel.
Soir, évidemment. Ah, oui. Un vendredi soir, c'est un petit peu triste ma vie, mais
tu pourras nous faire un retour.
Oui, vas-y, je te laisse finir, c'était juste pour préciser.
Bah, du coup, j'avais presque fini. Il y avait 2 autres sites dont j'avais envie de parler, les Aristochats. Et comme encore une fois, son nom est assez subtil aussi, hein, en termes d'Aristochat, aristocrate, tout ça. Et la princesse et la grenouille, qui du coup est quand même assez clairement parle des rapports de classe, en plus de parler des rapports de classe entre blancs et personnes racisées. Évidemment, les blancs sont en haut et les personnes racisées sont en bas de l'échelle sociale, hein, comme ça c'est sûr. Hein, après tout, il faut être réaliste, hein, il faut dire des choses réalistes aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Alors du coup, La Belle et le Clochard, Annette.
Alors moi, ce qui m'a fait tilter la première fois, c'est que quand on voit le clochard de la première image, il a quand même à côté de l'endroit où il dort une canette de bière renversée qui semble vide. Et là, tu dis, ah ouais, quand même. Alors c'est un détail, mais elle est quand même bien en évidence, juste à côté de l'endroit où il se lève, se réveille, s'étire. Voilà.
Il faut quand même le situer bien, quoi. Il faut qu'on sache que c'est le clochard.
Ouais. Voilà, avec une bouteille qui ressemble à une canette de bière. Les trucs pas chers en métal. Voilà, tu dis, ah ouais, d'accord, pas mal, c'est sympathique.
C'est de quelle année déjà les Aristochats? Là, je pose une histoire qu'on ait une. Les stéréotypes sur les clochards, ça date de. Soit qu'on y est, là, vous avez une idée. Moi, j'ai l'impression que c'est assez vieux.
Je ne sais pas.
Bon, on vous dira ça tout à l'heure. Alors ensuite, effectivement.
Eh ben, 70, tout rond, les Aristochats.
Les années 70.
Ouais.
Dis donc.
Oh, les 30 glorieuses, tout ça.
Ouais, voilà. Et les colliers de perles qu'on mettait aux chats. C'était dans les Aristochats. Les colliers de perles.
Bah, même hein, l'histoire des colliers, c'est présent dans les Aristochats et dans La Belle et le Clochard. Il y a quand même une scène de quoi, 15 minutes dans La Belle et le Clochard, où Belle est là, enfin sa médaille, parce qu'elle a 6 mois, que c'est devenue une grande fille maintenant.
C'est la première chaleur. Ouais.
Et
c'est vrai, c'est la réalité.
Alice. Oui, mais d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle rencontre le clochard. Hein. C'est magnifique.
Ah bah voilà. Peut-être t'as tes premières chaleurs. C'est bon. Mais en plus, ça fait penser à la médaille de communion, quand même.
Ouais, donc, carrément. Et elle a sa médaille et elle est trop fière. Elle se pavane parce qu'elle a une belle médaille toute brillante. Je ne sais pas si j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que les couleurs pour la médaille de Belle et pour les médailles des deux chiens qui vivent à côté de chez elle ne sont pas de la même couleur. Je crois qu'il faut quand même marquer la différence. Si on n'avait pas compris que Belle, enfin Lady, était une femelle, au cas où on n'avait pas compris, elle a quand même une médaille d'une autre couleur que je ne sais plus le nom des autres chiens qui vivent à côté d'elle là. Il y a quand même un lord anglais, hein, évidemment, aristocratie. Et puis un ancien chien de chasse qui a Alzheimer, le pauvre. C'est triste, c'est vrai.
C'est un peu l'élément comique. J'imagine s'il a Alzheimer, il est drôle forcément. Déjà, non,
mais c'est un peu pathétique quand même, parce qu'il radote sur son grand-père tout le temps. Et puis en fait, à la toute fin du film, quand... les petits de Belle et du clochard disent que non, jamais il aura parlé de son grand-père. En fait, il est incapable d'en parler.
Ah oui, d'accord.
Donc tout le film, le leitmotiv de ce personnage-là, c'est « Je vous ai déjà parlé de mon grand-père ?» Et en fait, non. Et on ne saura jamais, en tant que spectateur, ce que disait son grand-père.
Mince, ça se frustre, cette frustration.
Ouais.
Et du coup, moi, alors la Belle et le clochard et les aristochats, ils me sont venus assez rapidement à l'esprit, mais je les ai pas. Je ne me suis pas maté 8 Disney depuis la réunion de mercredi, hélas. Donc, moi, j'ai surtout en souvenir la princesse et la grenouille. Et du coup, il y avait 2-3 choses qui m'avaient marqué, qui étaient vraiment le. C'est des choses dont t'as pu parler, Clémy, mais que je trouvais quand même. Par exemple, moi j'avais vachement la notion de travail, le fait que c'est en fait leur dignité, c'est le travail, et ça m'avait vachement. J'étais là, non, ils sont aussi bien, ils sont aussi aimants entre eux, non, c'est pas ça aussi qui est cool dans cette famille, non, ils sont surtout, voilà, la dignité, c'est le travail, il faut travailler. Parce que finalement, il faut être fier de travailler et de gagner des clopinettes, d'avoir des rêves, parce qu'en fait, les rêves, c'est important. Bon, qu'ils se réalisent, c'est moins important, parce que de toute manière, tu gagneras jamais assez pour les réaliser. Mais quand même, il y avait ce truc-là qui m'avait pas mal marqué, genre elle qui faisait 3 journées de travail, qui dormait 30 minutes, et hop, elle était fraîche et dispose à nouveau.
Et Belle. Et...
Ouais, c'est ça, avec les joues un peu rosées d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi.
Et ce qui est assez. Ce qui est assez frappant aussi, moi je trouve, dans La Belle et les Clochards et dans Les Aristochats, parce que il faut quand même que je le dise, Les Aristochats ça a quand même été longtemps et ça reste encore maintenant un de mes dessins animés préférés. C'est un petit peu triste, hein, mais voilà.
Non, mais on est le jour où on dit les choses un peu
tristes. Lui et Peter Pan, hein. Enfin, c'est, voilà. Peter Pan aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même fondateur.
Si, on en a un peu parlé sur la question du racisme.
Oui, un petit peu. Oui, c'est vrai, avec Lily la tigresse, mais. Enfin voilà, donc il est O'Malley qui est chat errant et le clochard qui a choisi sa vie de clochard, hein, quand même. Enfin, on entend quand même qu'à un moment il s'est fait virer de sa maison, mais c'est quand même la liberté. Et c'est ce qui ressort de ces personnages là, c'est qu'ils sont libres, ils n'ont aucune entrave, ils font ce qu'ils veulent. C'est la liberté totale. Ils sont trop heureux d'avoir cette vie là. Mais quand même, à la fin, ils se rangent du côté des aristos et des familles avec collier. Hein, parce qu'ils ont trouvé une famille et qu'en fait, leur discours de « je suis libre, c'est la belle vie », c'est juste pour continuer à se lever le matin et être de bonne humeur, quoi.
Une fois que tu as une famille, une femme et des enfants, voilà quoi.
C'est bon, la liberté, c'est fini.
C'est fini la vie
nomade.
Et c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de Cendrillon et d'autres contes de fées, c'est la femelle qui vient apporter la promotion sociale. Voilà.
Ouais.
Un bon mariage.
C'est plus le prince charmant qui vient sauver, même s'il sauve d'une autre façon, justement parce que lui, il a l'intelligence de la rue, il sait se débrouiller, alors qu'elle, elle est complètement. Elle sait rien faire de. Voilà.
C'est ça. Lui, c'est la sécurité quand même. Voilà.
sécurité plutôt physique et voilà, on va se débrouiller. Alors que oui, par contre, le côté financier, matériel, c'est la belle... je sais plus comment elle s'appelle la chatte dans les Aristochats. Duchesse.
Ah, Duchesse. Et Duchesse. Entre Lady et Duchesse.
Ouais, si on n'était pas sûr qu'elles appartenaient à des familles un peu cotées au niveau des sous, un peu riches, ouais. Bah là on est sûr. Sinon pareil. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?
Bah non.
Bah alors on va pouvoir passer à cette chronique que nous avons toutes hâte d'entendre, Mathilde.
Oui. Oui, alors du coup, pour cette spéciale Disney, aujourd'hui, je voulais vous parler du travail de Jason Porath, donc qui est artiste et illustrateur et créateur d'effets spéciaux. Et il a notamment travaillé pour les studios d'animation, alors lui chez DreamWorks pour le coup. Mais, et en fait, il est également créateur du site qui va nous intéresser en fait pour cette spéciale. Du coup, le site à savoir rejectedprincess.com, donc en français, les princesses rejetées. Donc, notre cher Jason, fort de son expérience au sein des studios d'animation, il a eu en fait la brillante idée d'illustrer des personnages de femmes au destin exceptionnel, tout droit tirés de l'histoire, donc celle avec un grand H, et qui, du coup, par omission, n'ont jamais fait ni l'objet d'adaptation au cinéma, ni l'objet en fait de quelconque travail autobiographique exhaustif qui serait susceptible, du coup, de les rendre connus du grand public. Donc le projet en fait a été de réaliser plusieurs illustrations dans la lignée graphique des classiques de Disney des années 40 jusqu'à la fin des années 90. Et en fait, il a commencé avec quelques princesses jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement virales sur la toile et que les internautes eux-mêmes lui proposent par dizaines en fait l'illustration d'histoires de femmes incroyables issues de toutes les époques et surtout des quatre coins de la planète. Donc, en fait, on peut y découvrir des princesses alors hyper badass et powerful. Donc, tour à tour, exploratrices, guerrières, scientifiques, gangsters, artistes, même des patronnes, des politiciennes, des chamanes ou encore des pirates, ouais, vraiment pour tout. Mais du coup, toujours brillantes, en fait, dans leur refus de leur destin princier, en fait. Donc, on peut y croiser des princesses, alors comme par exemple Freydris Eiríksdóttir, guerrière viking, enceinte jusqu'au cou et réputée pour avoir vaincu une armée entière de guerriers rien qu'à l'épée. On a ensuite la princesse Julaïda, qui est une princesse invaincue en burqa de cuir, qui s'est insurgée contre la promesse d'un mariage avec son propre père, quand même. Et donc tout ça, c'est vraiment des histoires vraies. On a aussi Zenobia, une reine rebelle et conquérante de Syrie. Amari Devi, donc la princesse qui a orchestré d'elle-même sa propre victoire par sa connaissance de l'ingénierie civile, donc complètement improbable. Sonia Golden Hen, reine incontestée du crime et de l'évasion dans la Russie du 19e, qui est aussi très connue.
Ça donne envie.
Ouais, vraiment, je vais rêver. Ou encore Masako Ojo, donc qui elle, après s'être fait tromper par son shogun de mari, en fait, a carrément levé une armée entière pour orchestrer sa vengeance contre sa maîtresse, son mari, et a brûlé tout le village, enfin. Absolument génial, quoi. Du coup, le reste, je vous le laisserai découvrir par vous-même sur le site, où vous trouverez forcément la princesse que vous avez toujours rêvé de voir à l'écran lorsque vous étiez petite. Et donc, en gros, elles ont évidemment toutes des points communs, plutôt. Donc, souvent des histoires ultra-violentes entre mariage forcé, inceste, viol, emprisonnement, tentative d'assassinat, de répudiation, de séquestration, ou juste de soumission à l'autorité patriarcale, en fait. Mais tout aussi, du coup, en commun, le fait d'avoir complètement refusé, en fait, leur soi-disant destin. Et donc, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur, en fait, sur la démarche de l'auteur, qui lui-même, en fait, d'ailleurs, se décrit comme un candidat complètement improbable, en fait, pour la création d'un blog sur le féminisme et les femmes un peu, je sais pas comment dire, mais genre, botteuse de cul et multiculturelle de l'histoire, quoi. Du coup, en fait, même sur sa page de présentation, donc il se décrit volontiers, en fait, comme un homme blanc, hétérosexuel, né dans le Kentucky. Tu fais beaucoup quand même. Et il n'est pas non plus historien, mais depuis toujours, en fait, il disait qu'il y a une question qui l'anime, en fait, c'est quels pourraient être les personnages féminins de l'histoire les moins susceptibles d'être adaptés par l'industrie du cinéma d'animation, parce que évidemment, bah, trop badass, violente, tout simplement féministe. Voilà. Et du coup, il l'a pourtant fait. Et le rendu est vraiment super. Donc, en gros, chaque illustration est complétée en fait de l'histoire, parfois elle-même illustrée, du coup, comme des espèces de petits photoromans, enfin dessins romans. Et du coup, bah, nombre d'entre eux, en fait, il y a pas mal de personnages qui n'ont pas forcément, suffisamment de matière scientifique ou historique pour pour les restituer avec précision leur histoire. Mais du coup, les internautes, en fait, de part et d'autre de la planète, se chargent à contribuer à alimenter en fait les biographies du coup de ces personnages, ce qui est vraiment pas mal. Et du coup, en conclusion, il faut vraiment aller voir ce site, parce que c'est tout à fait jouissif de voir enfin des personnages qui méritent largement d'être adaptés au cinéma. Et en fait, j'ai trouvé que rien que le fait, en fait, de les voir illustrés, bah, du coup, ça leur donne vraiment une certaine consistance, en fait, ou plutôt une visibilité, si elle n'est pas forcément historique, dans l'histoire avec un grand H, mais au moins dans la culture populaire, quoi. Ça fait vraiment du bien. Ça a été mon cas, en tout cas. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est qu'on a surtout affaire, du coup, à des personnages, mais vraiment en majorité, je pense à même peut-être 90%, affaire à des personnages non blanches ou métisses, en fait, pour une histoire qui, du coup, n'est pas centrée que sur l'Occident, et ce que disait, en fait. Mais vraiment sur tous les continents, quoi. Ce qui est plutôt franchement rare dans le choix des personnages, les ou histoire adaptée par Disney, quoi. Donc voilà. Et puis qui sait, en fait, son projet pourrait peut-être donner des idées aux studios d'animation, comme aux jeunes cinéastes désireuses de voir enfin des personnages qui donneraient aux petites filles l'envie de se battre pour leurs rêves et leur droit de femme en devenir, du coup. Donc vraiment, allez faire un tour sur rejectedprincess.com.
.com.
.com.
Désolé. Merci beaucoup, Mathilde.
Et il est 14h55. Nous avons géré le timing comme jamais.
Ouais. C'est assez incroyable. Alors moi, j'avais deux petites questions à vous proposer, à vous demander. Est-ce que vous avez... Parce que... Alors, une remarque. Une remarque, c'était que par rapport à toute cette dimension sur le sexisme et sur cet article que vous pouvez voir, donc c'est ces diagrammes que vous pouvez voir sur les dialogues de films, là, c'est polygraph.cool, donc polygraph.cool, voilà, première chose. Deuxième chose, par rapport à cette question-là, quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que finalement, ce que ça nous donne à voir, c'est la manière par exemple, la répartition homme-femme est montrée à l'écran dans des films de princesses avec donc des femmes qui ont un rôle féminin, qui ont le rôle principal. C'est qui dirige le monde, qui a le pouvoir et qui a le pouvoir d'ouvrir sa bouche, quoi. En fait, on est toujours dans ces trois questions-là et donc on est toujours dans un point de vue sexiste par rapport à ces trois questions-là. Même dans ce genre de monde imaginaire, semi-imaginaire, tout ça. C'était une première chose. Et du coup, est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à votre famille sur le fait d'avoir ou non eu accès au Disney dans votre enfance? Parce que par exemple, moi, c'était mort. C'était ma meilleure amie, je pouvais aller voir les Disney, mais ma mère m'interdisait totalement, m'a toujours interdit d'acheter. On ne pouvait pas acheter de Disney à la maison. J'ai pu en enregistrer.
Mais alors, pour quel motif, du coup?
Ah, parce qu'elle ne supportait pas ça. En tant que féministe, en fait, elle ne supportait pas l'image des femmes que ça donnait à voir, quoi.
Ma mère ne supportait pas non plus pour les mêmes raisons, mais en fait, elle s'est rendue compte que de toute façon, j'allais les voir, les Disney, et que c'était mieux que je les vois avec elle à côté, qui, au fur et à mesure, disait « C'est pas comme ça dans la vie, ça, c'est pas vrai !» j'avais l'impression que ça ne me servait à rien.
T'as et puis été après, déconstruite, en fait.
Mais pas du tout, mais c'est ça qui est incroyable. j'ai pas lui dépassé beaucoup la crise d'adolescence pour me dire « Elle ne me disait pas que des conneries, en fait. » Elle avait compris des trucs. Donc oui, après, je pouvais les re-regarder, etc. Sinon, c'était pas toute seule la première fois.
C'est fou. Moi, je les ai tous regardés, surtout ceux avec les princesses. Ah. Et j'ai eu tous les costumes, j'ai eu toutes les paires de chaussures, le maquillage.
J'ai été fait le choix, quoi.
Encouragée à m'apprêter quand j'étais petite et à faire ma princesse.
Dis donc.
T'as la chance. Hein.
Ah, t'as eu de la chance quand même. Un peu un rêve, hein, d'avoir les robes princesses.
T'as fait tout le taf de déconstruction toute seule.
Écoute, je suis encore en train de le faire. Actuellement, je suis en train de découvrir pas mal de choses. C'est bien.
Alors.
Mathilde, enfin, moi, j'ai pas eu de... J'ai pu les regarder aussi, sans déconstruction attentive à côté, mais. Ça m'a pas trop dérangé. Enfin, après moi, mes personnages préférés c'était la fée Clochette, de qui j'ai gardé le côté connasse, et un petit peu, hein, mais quand même, et Mulan. Donc voilà.
Ouais, pareil, jamais interdite de Disney, pas à ce point-là quand même, mais. Mais après, c'était moi qui demandais, qui réclamais mes petites VHS à chaque Noël. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était Mulan, Aladdin. Tout ce qui est plus exotisant, ça me faisait kiffer à l'époque, en fait.
Et pour conclure cette émission, alors maintenant nous sommes en retard, il en fallait quand même un petit peu. Pour conclure cette émission, alors on va se faire détester, mais c'est pas grave, on assume. On va vous passer une dernière chanson et on vous passe celle-là parce qu'il y a eu plusieurs explications de cette chanson. Alors la première, et j'ai dit que je la citais, donc comme on cite toujours ces sources d'informations, je tiens cette information de Marie-Caroline qui a travaillé à Disney et pour qui, en fait, enfin les collègues après discussion ont dit que la chanson que nous allons vous passer, et que je ne citerai pas, vous allez la reconnaître tout de suite, est une... une ode, en fait, l'analyse des paroles renvoie à la libération sexuelle de la femme. Et donc voilà. Et en fait, nous, on va un petit peu plus loin parce qu'il y a eu des personnages conservateurs, cathos.
Un pasteur.
Ouais, un pasteur.
Un pasteur américain, néoconservateur. Qui du coup
qui a vu dans la chanson
une hymne à à l'homosexualité et à la zoophilie.
C'est, voilà. L'homosexualité, ouais, lesbienne. Donc voilà, donc on vous laisse découvrir cette magnifique chanson.
Crypto-lesbienne, n'est-ce pas?
Et on vous retrouve dans un mois avec, a priori, alors c'est encore en discussion, mais une émission sur le pouvoir libérateur de la misandrie dans la littérature. Ciao, ciao!
Voilà.
S'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes peaux. N'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais.
Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis. Tant pis. le prix de la liberté.